Il y a une attitude perceptible parmi les gens, savoir qu'il y a un risque d'embrasement du pays et notamment de la possibilité de passer des examens pour les étudiants cette année-ci. Donc, une certaine anxiété et tout le monde espère que ce conflit va être résolu à l'amiable de façon à pouvoir résoudre pacifiquement les problèmes qui se posent.
Quelle est la réalité de l'écart entre les riches et les pauvres aujourd'hui encore en Afrique du Sud?
Ici, nous sommes trois missionnaires d'Afrique à 15 minutes de l'aéroport dans une banlieue résidentielle où les Blancs sont la majorité avec des belles résidences. Mais parfois, nous allons dire la messe dans ce qu'on appelle les townships, c'est-à-dire les quartiers noirs, et bien contraste dans le style d'habitation, etc., qui montre clairement que les Blancs donc, ont hérité économiquement des privilèges de l'apartheid. Donc les jeunes noirs se sentent discriminés. Et certainement, ça contribue à ce climat de violence qui existe actuellement.
Est-ce que vous la comprenez, cette colère des jeunes étudiants ?
Il y a un problème d'éducation. Les enfants des classes privilégiées, notamment les Blancs, ont accès aux meilleures écoles privées, etc. Alors que la population noire, en général, n'a accès qu'à des écoles publiques qui sont dans un état pitoyable. Donc, certainement, il y a des sentiments négatifs qu'on peut comprendre, mais qui sont exploités par des opportunistes politiques, je suppose, qui donc débordent le mouvement étudiant.
Et quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes Sud-Africains aujourd'hui ?
L'accès au marché du travail, le chômage parmi la jeunesse noire est beaucoup plus important à cause de ce problème d'éducation qui est trop faible, qui n'est pas bien adapté. Aussi les attentes ou les rêves qui prévalent dans les différents milieux, notamment des jeunes, c'est d'avoir un emploi en col blanc. Et donc, pas forcément là où on peut avoir facilement accès au travail. C'est parfois plus raisonnable peut-être d'accepter des travaux, des emplois moins prestigieux, mais qui existent et qui sont pris par les immigrés des pays environnants. Là, je pense que c'est le plus gros problème, qui est lié aussi, bien entendu, au manque d'héritage économique, c'est-à-dire quand les parents n'ont pas les moyens de payer des études ou de fournir des emplois, de fournir des relations sociales qui permettraient d'avoir accès à des emplois, en tout cas rémunérateurs, la jeunesse se sent coincée et se rabat sur une violence gratuite.
Cette violence, elle traduit quoi de la jeunesse sud-africaine aujourd'hui ?
Le rêve fondateur de la chute de l'apartheid, donc de la nation arc-en-ciel avec Nelson Mandela, se fracasse devant la cruauté de la compétition internationale et de la compétition entre les Blancs, les Noirs, les classes sociales, puisque maintenant il y a quand même des Noirs, notamment les dirigeants politiques ou d'affaires noires qui ont fait fortune, qui sont accusés d'avoir trahi l'héritage de Nelson Mandela. Et donc, cette jeunesse voudrait revivifier le rêve de Nelson Mandela en rappelant à l'ordre l'élite actuelle noire, apparemment, laisse un peu trop facilement aller à la corruption. C'est-à-dire, ils ont fait certainement des choses très bonnes pendant la lutte contre l'apartheid, mais les méthodes qui étaient valables pour faire tomber l'apartheid ne sont pas forcément les plus adaptées quand on est au pouvoir.
Vous disiez qu'il y a peut-être une utilisation politique de cette protestation étudiante. Est-ce que ce mouvement leur échappe quelque part ?
D'un côté, nous avons certains leaders politiques qui sont heureux de pouvoir déstabiliser un peu plus le gouvernement en espérant marquer des points politiques. Et d'un autre côté, la naïveté de la jeunesse qui ne voit peut-être pas forcément les conséquences d'actes de violence. Malgré tout, la responsabilité des leaders politiques est engagée. Hein. L'exploitation politique de la situation par l'opposition, notamment l'extrême gauche, le laisser faire, le laisser aller des dirigeants de l'ANC, je sais pas. Bon, les deux plus grandes responsabilités sont là par rapport à la violence.
Comment vous, sur place, vous répondez à cette jeunesse en colère ?
Eh bien, nous essayons de les soutenir dans leur rêve d'une société plus juste en Afrique du Sud. Leur rêve est valable, c'est-à-dire que l'Afrique du Sud a besoin de dirigeants honnêtes qui travaillent dur pour que la richesse soit mieux répartie entre riches et pauvres, plus qu'elle ne l'est actuellement, que quand même l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus inégalitaires du monde, et rappelant tout de même que ce rêve peut être réalisé dans la violence, que la violence est contre-productive, brûler des classes, des écoles ou des salles d'université ne fait qu'empirer la situation.
Alors quel serait le moyen de trouver un dialogue avec les autorités et pour ces jeunes de se faire entendre ?
Le gouvernement et les dirigeants, les étudiants, doivent faire chacun un effort pour écouter l'autre, pour respecter l'autre et à partir de là, renouer le dialogue. Il y a un groupe qui est chargé de la médiation entre le gouvernement et les jeunes étudiants, donc des personnalités respectées et des leaders religieux catholiques. Les jésuites sont aumôniers de l'université là, de Vitz. Il y a un certain nombre de bonnes volontés qui sont capables de jouer les médiateurs. Les évêques catholiques ont pris fait des causes pour la justice, donc pour qu'il y ait un système mis en place pour pouvoir résoudre le problème des étudiants pauvres, qui sont 80% d'entre eux. Donc tout ce processus doit reprendre, mais bien entendu en cessant les violences.